Alors, que se passe-t-il autour de ces gazoducs Nord Stream en mer Baltique? On va vous écouter dans un instant, mon cher Vincent Hervouette. Des fuites avec des explosions qui les ont précédées, un bouillonnement qui fait des kilomètres de diamètre, une inquiétude écologique, une pollution éventuelle sur ce gaz. Et surtout, qui est à l'origine de ce sabotage? Beaucoup d'hypothèses sur la table. Les Russes sont accusés, qui eux-mêmes accusent les Américains. On fait le point avec ce sujet de Karine Bouteloup et je vous passe la parole ensuite.
Sur les images fournies par l'armée danoise, on voit de vastes bouillonnements en mer Baltique. Ils sont provoqués par l'une des trois fuites de gaz et s'étendent sur près d'un kilomètre de diamètre. La zone est interdite de navigation dans un rayon de 9 km. Alors que l'hypothèse du sabotage laisse peu de doutes, l'Union européenne, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures énergétiques.
Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et les raisons. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible.
Pour l'heure, des zones d'ombre subsistent encore sur la façon dont ont été provoquées ces explosions et sur les auteurs de ces attaques. Selon la première ministre danoise, Mette Frederiksen, les fuites devraient durer au moins une semaine.
Nous examinons la situation avec une grande sévérité. Les équipes d'intervention et les autorités travaillent sans relâche pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une situation grave.
Le Kremlin, vers qui les regards se tournent, juge stupide et absurde d'accuser la Russie d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Alors que s'est-il passé en haute mer, Vincent Hervouette? On n'a aucune idée de qui a saboté tout ça. Mais non, alors, Américains et Russes se renvoient la responsabilité allègrement.
Alors, c'est une histoire qui est vraiment fascinante. Et c'est une histoire importante parce que, d'abord, bon, vous avez cette image de ce grand jacuzzi, là, ça efface totalement les images d'hier du référendum en Ukraine, dont on ne parle plus, qui était une sorte de mise en scène digne d'une réplique bananière, mais qui était censée quand même fonder la légitimité de la Russie à annexer ses territoires. Donc, ça, on n'en parle plus. On a cet événement. Or, il faut bien voir que les deux gazoducs qui ont été sabotés étaient des gazoducs qui n'étaient pas en service. Même si vous avez du gaz qui s'échappe, c'était pour assurer une forme de maintenance, mais ce sont des tubes qui ne fournissaient pas à l'Europe le gaz russe. Les Russes vendent désormais leur gaz à l'Inde, à la Chine, au Japon, à Taïwan, à l'Asie en général, qui d'ailleurs nous le revend sous forme liquéfiée, mais le marché se porte très bien pour les Russes, mais ça se passe de l'autre côté. On a immédiatement soupçonné la Russie. On se dit, mais pourquoi est-ce que la Russie irait faire sauter ses propres installations qu'elle a installées au fond des eaux, à grand prix Et dans le même temps, on a immédiatement vu surgir une vidéo incriminant Joe Biden, puisqu'on est en février, et le président américain explique que si Nord Stream 2 est mis en service, les Américains s'en occuperont.
C'est-à-dire qu'ils le saboteront, qu'ils le font s'arrêter.
Ils l'obligeront à fermer. Alors, on n'est pas obligé de saboter au fond de l'eau, on peut saboter les installations en surface, on peut les faire fermer, etc., etc. Mais, en tout cas, la menace était claire, précise, et il doit aujourd'hui en rendre compte. C'est-à-dire que l'ambassadeur russe aux Nations Unies dit à M. Biden, maintenant expliquez-vous, est-ce que c'est vraiment vous qui avez fait le coup? Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, on cherche immédiatement à accuser l'ennemi, l'ennemi étant capable de tout, évidemment, c'est l'incarnation du mal. L'important est d'ailleurs, on saura tôt ou tard ce qui s'est passé, parce que c'est une zone qui est très surveillée, pour faire sauter...
C'est dans les eaux internationales, on est d'accord.
On est dans les eaux internationales, mais on est juste à côté, donc on est dans une zone qui est extrêmement surveillée par toutes les marines. C'est un terrain de jeu pour les sous-marins russes. C'est vrai qu'il y a des drones, qu'il y a des petits sous-marins aussi de poche qui peuvent aller faire ce travail. C'est un gros travail, parce qu'il faut quand même poser quelque chose comme 700 kilos de TNT, ou l'équivalent en explosif, sur un tube. C'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même des moyens lourds, il faut... des navires de haute mer, il faut des... C'est quand même assez technique, c'est pas le petit sabotage du Rainbow Warrior avec des mines ventouses. Hein. C'est le bateau étant à quai. C'est quelque chose quand même de beaucoup plus compliqué. Mais on le saura. Il y aura des moyens de le savoir, et très vite la communauté des renseignements le saura, qui a fait le coup. Pour l'instant, ça veut dire qu'il y a deux choses à relever. La première chose, c'est que le conflit ukrainien nous a projetés dans une forme de guerre froide. Et pour la première fois depuis 7 mois, cette guerre froide vient de sortir du théâtre où elle était enclos. Elle vient de sortir du Donbass et de l'Ukraine en général. Elle vient tout d'un coup de survenir ailleurs. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que pour la première fois au monde, pour la première fois, un réseau sous-marin stratégique a été saccagé par une opération militaire ou terroriste. Pourquoi ? Parce qu'il y a 450 réseaux de fibres optiques qui, sur des milliers de kilomètres, assurent 95%, je crois, de toute la connectivité mondiale. Vous avez les réseaux de transport d'énergie, vous avez les réseaux télécoms, vous avez ainsi comme ça toute une myriade de réseaux sous-marins qui sont extrêmement vulnérables et auxquels personne n'avait encore touché. C'est l'émergence soit d'une guerre hybride, soit d'une forme de terrorisme. C'est un terrorisme aveugle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est comme tous les actes terroristes de ce genre, ce sont des lettres anonymes. On ne sait pas très bien qui les a postées, mais on sait à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire, attention, arrêtez immédiatement, nous avons les moyens de nous faire très mal.
Allez, on fait en général, une petite pause. On reviendra sur ce sujet du sabotage des gazoducs. On vous passera la parole, Joseph Massescaron, et on essaiera de comprendre. On écoutera aussi la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s'est exprimée à ce sujet. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On est en direct sur CNews et sur Europe 1, de retour dans Punchline. Qui a saboté les gazoducs Nord Stream en mer Baltique ? Russes et Américains se renvoient la responsabilité. Il faudra beaucoup de temps avant de trouver le responsable de cette explosion qui, vous le disiez, Vincent Hervouette, fait date. C'est la première fois qu'on attaque ce type de gazoduc et que le conflit s'exporte. Le conflit qui était pour l'instant circonscrit à l'Ukraine s'exporte en dehors. On va écouter Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimée à propos de ce sabotage.
Ce sont des événements graves, bien sûr, qui ont entraîné nos ambassadeurs, représentants permanents auprès de l'Union européenne, à se réunir aujourd'hui même pour rechercher quelles peuvent être les causes de ces explosions et puis pour décider d'un certain nombre de réponses nécessaires sur lesquelles vous me permettrez de ne pas entrer dans les détails. Tant le Danemark que la Suède excluent qu'il puisse s'agir des conséquences d'un mouvement sismique et recherchent donc les causes ailleurs. Avant de désigner des responsables, il faut avoir une enquête. Cette enquête est en cours. Un certain nombre d'indices convergents font penser qu'il ne peut pas s'agir d'un accident et qu'une intervention délibérée a occasionné ces explosions, ces mises à feu, avec des conséquences tout à fait graves sur le plan écologique, comme sur le plan de la sécurité internationale, et nous prenons ça très au sérieux.
Voilà pour Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Joseph Massescaron, qui aurait intérêt à taper, à frapper ces gazoducs qui ne véhiculent plus de gaz? Ils ont encore du gaz dans les tuyaux, mais ils ne sont plus en service.
C'est évidemment difficile de répondre. Vincent Hervouette a rappelé fort justement qu'il y avait cette vidéo virale qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est la déclaration du 7 février dernier de Joe Biden qui dit que de toute façon, il est prêt à arrêter Nord Stream. Et qu'à un moment donné, on lui objecte en disant « Mais oui, mais vous avez aussi l'Allemagne. Est-ce que vous ne craignez pas, l'Allemagne est un allié ?» Et il dit « Même si l'Allemagne est un allié, nous arrêterons. Voilà. » Donc c'est un ton, il faut dire, particulièrement vindicatif, ce qui explique évidemment l'utilisation et le relais qui en est fait aujourd'hui. Parce que c'est là, pour le coup, c'est présenté comme une volonté, en effet, de mettre fin. Maintenant... Je crois que on a assez dit que en effet le conflit s'exportait. On a dit aussi que ça pouvait prendre un tour différent par rapport, évidemment, bien sûr, à l'énergie, mais par rapport aussi aux télécoms. Mais je crois que ça souligne encore plus, en tout cas, la faiblesse de l'Europe sur tout ce qui concerne. Sa politique de l'énergie. Parce que ça signifie également que ce coût qui est porté aujourd'hui pourrait être porté sur d'autres infrastructures énergétiques. Et à ce moment-là, ce serait une dépendance totale, bien sûr, de l'Europe. Donc c'est peut-être aussi ce signal qui est envoyé. évidemment, si c'est ce signal qui est envoyé, les Russes qui sont déjà suspectés, bah, suspectés pourquoi ? Parce qu'ils ont, ont une habitude hein, de cette guerre sous-marine. Ils sont au premier chef, mais ça ne veut pas dire tout simplement que c'est les Russes. Bien sûr, il y a des sous-marins, mais ça pourrait être aussi des nageurs de combat qui ont déposé des charges, enfin, etc. On peut tout imaginer. Mais cette volonté aussi de dire, de signifier, attention, vous, peuple européen, les infrastructures énergétiques, partout, et comme Vincent l'a dit, parce que maintenant, ça s'exporte partout, vous êtes absolument vulnérables, et il n'y a rien qui soit en mesure de vous protéger.
Vincent Herbert, si c'est un avertissement, effectivement, le message a été reçu 5 sur 5, si jamais, là on parle de gazoduc, on parle de l'énergie, si ça venait sur des conduits de télécom, d'Internet, serait une crise numérique, extrêmement grave, quel impact ?
Vous auriez des conséquences en cascade qui sont assez incalculables, évidemment, si vous... je vous dis, parlez, il y a 450 donc, réseaux de fibres par lesquels passe l'essentiel de la connectivité mondiale. Pratiquement tout passe par là. Sur l'énergie aussi. Donc, ce serait des conséquences, évidemment. Ce serait une guerre totale. C'est une guerre hybride, en tout cas. Mais déjà, ce qu'on vient de voir...
Une guerre sans bombe.
C'est une manifestation éclatante de ce que peut être une guerre hybride. Puisque c'est du terrorisme en sous-sol. Il y a désormais des pirates en mer. Et ces pirates sont capables de provoquer le chaos. Donc il faut à la fois les identifier, s'en protéger, les isoler, dealer avec eux, sait-on jamais. Qui est-ce ? On ne sait pas pour l'instant, mais on sait qu'ils sont là. Et qu'il faut prendre l'affaire d'une manière solide. J'ajoute juste une chose. Si on s'amuse à jouer à qui profite le crime, évidemment, ça détourne l'attention de la Russie parce que les Russes ont investi 8 milliards de dollars dans Nord Stream 1, 6 milliards dans Nord Stream 2. Les Français eux-mêmes viennent de perdre 1 milliard hein, parce que Engie, c'était 1 milliard d'euros hein, dans le tour de table hein, pour avoir un strapontin. Hein. Et tout ça est à l'eau, si j'ose dire. Mais si on regarde à qui profite le crime, le gaz russe, il doit retourner en Europe, il passera par l'Ukraine, en fait. Et les Européens, s'ils veulent du gaz, ben, ils prendront du gaz liquéfié. Parce que les Russes vendent aux Chinois qui transforment le gaz en GNL, qui nous le renvoient. Les Américains nous envoient leur gaz de schiste. C'est comme ça que ça marche désormais. Ça fait un sacré détour, ça coûte plus cher, mais c'est plus dur. En tout cas, qui profite le crime, certainement pas la Russie. Sauf à vouloir mettre un avertissement non pas clair, mais en tout cas décisif, hein, et freiner les Américains.
Alors, Geoffroy Lejeune, un mot sur cette situation de Nord Stream.
C'est vrai que c'est fascinant et que ça fait écho. Moi, pour moi, la guerre froide, c'est un souvenir de littérature, mais j'ai le sentiment de replonger dans les mêmes considérations, dans les mêmes, le même genre de raisonnement, etc. Moi, ce qui m'a inquiété en premier lieu, c'est en effet le changement de nature, probablement, du conflit. C'est-à-dire que tout à l'heure, Vincent a parlé de guerre froide. Pour l'instant, c'était une guerre extrêmement localisée sur le plan géographique. Et là, on a le sentiment que ça commence à nous concerner très directement. Et moi, la question que je me suis posée, vous savez, on a beaucoup agité ces derniers jours, ces dernières semaines, mais surtout ces derniers jours, le spectre de l'escalade et peut-être de la menace nucléaire, etc. On a beaucoup débattu de tout ça. Moi, je me demande si en fait, ce qui se passe depuis 24 heures n'est pas de nature à rendre de plus en plus compliquée la désescalade. C'est-à-dire que je sais que la guerre froide, par exemple, a été une situation peut-être plus compliquée et qu'il y a eu une forme de résolution, mais il y a eu l'effondrement d'un des deux belligérants. Là, je ne vois pas comment... c'est une vraie question que je pose, comment on peut obtenir une désescalade et une sortie de cette crise sans avoir la défaite totale de l'un des deux acteurs et son humiliation par la même occasion.
C'est vraie question.
Ce que l'on voit, pour rebondir sur les deux interventions, c'est que Poutine joue sur toutes les palettes. C'est vraiment, il joue sur tout. C'est-à-dire qu'on a vu sur la guerre traditionnelle de terrain, auquel d'ailleurs nous-mêmes nous n'étions pas, nous avons redécouvert cette guerre traditionnelle de terrain. Nous avons vu aussi, bien sûr, le spectre de la guerre alimentaire. Il y a la guerre, ça a été rappelé, donc des activités hybrides, exactement ce que craignait l'OTAN. On a vu, en effet, comme Geoffroy le rappelait, l'escalade, la question nucléaire. Donc on voit bien que c'est à chaque fois, en fait, on a l'impression, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu d'échecs. Et qu'il y a à chaque fois, bien sûr, des pièces nouvelles qui sont déplacées.
Et qui bougent, voilà.
Et que nous sommes toujours en réaction par rapport à ces pièces qui se déplacent.
Bien sûr. Karim ?
Bah, moi, je crois qu'à ce stade, effectivement, il est bien difficile de se prononcer sur l'auteur de cette explosion sous-marine, tant les enjeux, d'un côté comme de l'autre, peuvent être des options qui sont posées sur la table et qui avantageraient soit les Américains à accuser les Russes, soit les Russes à accuser les Américains. Ce que je sais, c'est que mon sentiment, on s'enfonce effectivement dans ce conflit, au-delà du territoire de prédilection à cette guerre. On élargit aussi l'enjeu à la question énergétique, aux infrastructures énergétiques. Si on avait une sanction qui était relative à l'embargo et aux mesures de rétorsion vis-à-vis de la Russie, les infrastructures qui alimentaient potentiellement en énergie l'Europe n'étaient pas touchées. Elles le sont aujourd'hui. Alors, la Suède et le Danemark, j'ai bien entendu le message qui consiste à dire qu'ils sont scandalisés, mais qu'ils se gardent bien là aussi donc d'accuser bien qui sûr. Que ce soit, parce que ils estiment que ça n'est pas une agression à leur encontre. Donc, on voit bien que eux sont dans la désescalade, mais ça renforce le duel États-Unis-Russie, depuis le départ, on est à la ramasse,
qui est le vrai
on est dans la roue des Américains, on n'a pas de voix européenne, on n'a plus de voix française, et donc du coup, c'est vraiment cette confrontation États-Unis-Russie sur notre sol qui est en train de se jouer. Donc moi, je crois, comme Geoffroy, que les voies de la désescalade s'éloignent, que la possibilité de se mettre autour d'une table s'éloigne fortement, et que là, on s'enfonce encore un peu plus dans un conflit qui sera durable, mais qui prendra peut-être des natures différentes à ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Vincent, un petit mot avant qu'on reparle de ce qui se passe en Russie, cette fois-ci.
Plus un mot, c'est moi, ce qui me frappe, c'est que on assiste à une espèce de guerre depuis 7 mois, qui est une bataille d'artillerie, avec mais en réalité, cette bataille d'artillerie, c'est très fallacieux, parce que c'est le spectacle qu'on a à la télévision, mais en fait, il y a une guerre secrète.
On ne le voit pas, le spectacle d'artillerie déjà, Vincent.
Une guerre des services.
On ne le voit pas.
Oui, on ne la voit même pas, la bataille.
On
voit le résultat des bombardements, on voit les cohortes de déplacés, on voit les morts.
On voit les massacres, bon, on voit les
horreurs. Les infrastructures qui sont détruites, on voit les immeubles, bon, tout ça, toute cette misère, mais on voit les destructions. Donc, d'une guerre finalement assez classique. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a une implication des services secrets, une guerre secrète. Qui est d'une intensité qui dure depuis, incroyable, qui dure depuis 8 ans. Je veux dire, les services américains ont forgé, à partir de rien, une armée ukrainienne. Qui sait, ils l'ont dotée d'équipements dont ils savent se servir. Et aujourd'hui, s'ils arrivent à marquer des points face à une armée russe qui se délite, et c'est quand même la grande surprise, si vous voulez, de tous les gens qui s'intéressent aux questions de défense, c'est que l'ex-armée rouge, l'armée russe, malgré ses réserves incalculables, eh bien, elle donne l'impression d'être à bout de souffle.
Absolument.
Et la guerre que font les Ukrainiens est une guerre une guerre américaine par procuration
contre les Russes,
qui a ressuscité l'OTAN et qui est en train de changer la face du monde.